Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'Estival du Local, votre quotidienne cet été à suivre du lundi au vendredi sur l'autre radio. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 août et la rubrique du jour, les jeunes se bougent. On vous a déjà parlé de ceux qui participaient à l'opération Argent de Poche, qui avaient monté leur propre festival de spectacles d'art vivant, qui travaillaient pour la première fois. Et bien aujourd'hui, place à celles qui sont membres actifs d'une association pour la conservation du patrimoine. Ça se passe à Cossé-en-Champagne, dans l'est du département. Sa présidente n'a qu'une vingtaine d'années et déjà des idées plein la tête. Leur projet du moment, la collecte des témoignages d'anciens Cosséens pour garder cette mémoire. Rencontre avec celle qui habite Paris, mais revient très souvent dans le village de sa naissance.
Bonjour, moi je m'appelle Teresa Tjurda. Je suis née à Cossé, j'ai 25 ans. Aujourd'hui je travaille à Paris au Théâtre des Champs-Élysées dans le mécénat. Et ça fait 3 ans que je préside l'association du pour la valorisation du patrimoine de Cossé-en-Champagne. Grâce à mes parents, j'ai une attirance pour le patrimoine de toute façon. J'ai un attachement à ma commune. Non pas qu'elle soit la plus magnifique ou j'en ai bien conscience, mais j'ai un attachement particulièrement à ma commune. Et j'aime beaucoup notamment, il y a des aspects de ma commune que j'aime particulièrement, l'église, les petits sentiers, le Trelon, la vallée du Trelon, etc. Et c'est en discutant avec des gens investis déjà pour le patrimoine de la commune qu'on s'est dit, on n'a pas encore notre association du patrimoine, or on a un beau patrimoine, il faut qu'on se lance. Que là, il y avait une urgence, c'était la toiture de l'église qui commençait à sacrément se dégrader. Donc on s'est lancé dans ce projet, il y a 3 ans en fait, dès le démarrage de l'association. Il y a 2 semaines, on a remis un chèque de 10 000 euros à la commune et puis c'est pas fini. Nous, l'objectif, c'est de rénover même l'intérieur de l'église. Donc voilà, on a ce projet à moyen long terme, on va dire. Mais on a d'autres projets à côté, en parallèle. Alors, les vieilles pierres s'usent. Il faut rebâtir, il faut restaurer, etc. Mais par contre, la mémoire des anciens, quand elle part et c'est irrémédiable. On ne peut plus rien faire. Il y avait aussi urgence, en fait, de ne pas laisser partir nos anciens qu'on connaît bien, qui ont toujours vécu à Cossé. Ça, c'est admirable. Ils ont vu l'évolution que moi, en vivant à Paris, je ne vois pas. Forcément, je ne verrai peut-être pas. Donc on s'est lancé dans ce recueil de mémoire avec 2 personnes de l'association. Voilà, on a recueilli déjà 6 témoignages. On récolte la mémoire des plus anciens, parce qu'on se dit logiquement c'est ceux qui vont partir peut-être plus tôt. Donc on a quelqu'un dans l'association, un trésorier qui s'appelle Dominique Lavoué, qui connaît tout le monde. Ce qui n'est pas mon cas, en fait, c'est vraiment la complémentarité des connaissances et des compétences. Lui s'occupe de récolter tous les noms des personnes qu'on doit interroger. Donc, il me les transmet. Moi, je m'occupe de les contacter, de prendre rendez-vous avec elles. Et je me suis entourée d'une jeune Cosséenne aussi, avec qui j'ai été à l'école à Cossé, qui, elle, s'occupe de la partie technique. Donc, voilà, on planifie nos week-ends, parce que ça prend une demi-journée d'interroger 1 ou 2 personnes. Il n'y a pas de difficulté à délier les langues, en fait. Elles se délient toutes seules. Les personnes ont beau être parfois timides, quand elles parlent de leurs souvenirs et leur enfance, les souvenirs d'enfance, c'est quelque chose sur lequel on peut inlassablement discuter. Moi, ce qui m'impressionne, ils allaient tous à l'école à pied. Ils étaient dans des fermes à 2, 3 km, 5 ou voire 10 pour le maximum que j'ai pu entendre. Donc c'est quand même, c'est 10 ou 20 km par jour à pied, enfants, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, sans lumière. Les enfants des fermes les plus éloignées allaient venir chercher les autres, etc. Venaient en groupe. Je trouve déjà, j'ai des images merveilleuses en tête. Et ça m'impressionne. Parce qu'aujourd'hui, les parents se demandent comment faire dépenser leurs enfants physiquement. Donc on cherche des activités sportives, etc. Et moi, quand je leur demande quel était leur loisir, déjà, on avait la marche. Juste la marche quotidienne. Et puis après, on allait aider, évidemment, nos parents. Sinon, évidemment, quand ils parlent des processions, des fêtes de village, c'est souvent lié aux fêtes religieuses. Hein. Vraiment, ils décrivent le village comme étant décoré, fleuri, quelque chose qu'on ne voit plus. Ah, j'aime beaucoup quand ils me racontent des balles, parce que c'est vraiment, j'ai l'impression que le bal, c'était un peu le passage obligé à 16-18 ans. C'est trop amusant. La première mission de notre démarche, c'est d'archiver déjà ces témoignages. Et comme ça, si quelqu'un un jour a envie d'écrire un livre, comme il avait déjà été fait auparavant pour le début du XXe siècle à Cossé, ils auront les témoignages, ils pourront s'appuyer dessus. Et nous, on a un second objectif à moyen terme, j'espère d'ici 2 ans, de monter un petit film documentaire, même amateur, mais qu'on puisse montrer aux Cosséens. On parle beaucoup de quête de sens aujourd'hui. surtout pour la jeunesse, on ne sait pas où on va, etc. On ne voit pas très bien l'avenir. Donc pour moi, on a besoin de regarder un peu vers le passé, de ce qui s'est fait, de ce que nos grands-parents... Donc ce n'est pas si loin que ça. On ne demande pas de regarder le Moyen-Âge. Hein. Ce n'est pas si loin que ça. C'est nos grands-parents, ce qu'ils ont vécu, eux, comme peine. Qu'est-ce qu'ils ont enduré, quel sens ils ont donné à leur enfance, à leur vie. Il y a un enracinement, moi, je pense que qui est vraiment important. Et je me dis, ce lien intergénérationnel entre la jeunesse et les anciens, il y a vraiment un lien à renouer qui va nous permettre d'avancer, et pour nous, la jeunesse, et pour les anciens, de se sentir intégrés dans la société. Parce qu'on parle aussi souvent d'exclusion des anciens, etc. Or, ils ont toute leur place. En réalité, quand on les entend parler tous les travaux physiques qu'ils avaient à faire, etc., d'aider leurs parents, d'aider 7 ans dans les champs, enfin, c'est une vie difficile. Moi, je trouve que ça permet de relativiser tous nos bobos et tous nos soucis. Quand on arrive, avec Barberine Guiter qui m'accompagne, je pense qu'on transpire la naïveté. La naïveté, et on ne connaît pas encore, je pense qu'ils le savent, on a tout à découvrir en tout cas de leur vie. Ils sont touchés qu'on vienne chez eux vraiment, même à chaque fois. Ils disent bah, merci de prendre ce temps, vous habitez à Paris, c'est très gentil de venir chez nous une après-midi, etc. Non, ils sont assez touchés, même qu'on s'intéresse à eux. Non, ils sont vraiment touchés. J'aime beaucoup la rencontre. Et Barberine est pareil. Et puis, j'aime beaucoup aller même chez les personnes, découvrir leur habitat. Et parfois, qui n'a pas beaucoup changé au fil des années, qui ne ressemble pas aux maisons qu'on construit actuellement. Donc, j'aime beaucoup. On peut rebondir aussi sur leur habitat, leur façon encore de vivre dans leur cuisine, etc. C'est génial.
Le film, avec ses témoignages d'anciens Cosséens, pourrait être projeté aux habitants durant l'été 2024. Si vous souhaitez soutenir l'association, vous pouvez participer à la collecte en ligne sur le site helloasso.com. Il suffit de chercher « Parrainer un ange, restauration de l'église de Cossé en Champagne », c'est l'intitulé exact. C'est l'heure de notre troisième épisode de notre feuilleton à la ferme Arc-en-Ciel à Bazougé, une ferme biologique où est produit un gouda fermier, mais aussi différentes céréales paysannes pour la transformation en pain qui se fait sur place avec un moulin et un four. Ce projet mené par la fille des créateurs de la ferme Arc-en-Ciel prend de plus en plus d'ampleur. Explication avec Angélique Changeon qui travaille sur la ferme depuis un an.
La boutique à la ferme est ouverte 3 jours par semaine. Et ça, c'est quelque chose qui tenait à cœur vraiment à Willem et Marike, qui sont à l'origine du projet agricole de cette ferme. C'est que ça puisse être vraiment un lieu d'accueil où les gens puissent venir à la ferme. Et il est vrai que les familles, quand elles viennent, c'est souvent les mamans vont ou les papas vont dans la boutique et les enfants, eux, courent voir les cochons ou les vaches. Enfin, c'est aussi une occasion de pouvoir montrer la réalité de leur métier, puis d'accueillir aussi sur place les curieux et puis les consommateurs, en fait, c'est quand même le bon goût des productions fermières, artisanales. Et c'est sûr que quand on est sur place, les gens, ils rentrent aussi dans une énergie, dans un fonctionnement, dans quelque chose, et en fait, on peut leur montrer, il y a une odeur, enfin, je veux dire, la boutique à la ferme, elle est juste à côté de la fromagerie, il y a l'odeur qui va avec. Ouais, je pense que ça peut donner confiance aux consommateurs aussi, de venir voir sur place comment les choses, elles sont vraiment faites, et puis d'aller voir les vaches, les personnes qui viennent chercher le lait directement, on prend le lait au moment où souvent les horaires du magasin c'est en même temps que la traite, on prend le lait du moment quoi, on ne peut plus frais, il est encore chaud dans les bouteilles, enfin je pense que c'est quelque chose qui tient à cœur à beaucoup d'entre eux. En 2016, Ylvie, qui a grandi dans cette ferme, qui est la fille de Willem et Marike, a rejoint l'aventure avec son mari Christopher, qui arrive du Danemark. Et elle avait à cœur aussi de développer quelque chose d'elle dans cette ferme. Et elle était attirée par la réalisation d'un fournil avec la fabrication du pain, en sachant que Willem produisait déjà des céréales panifiables en fait depuis quelques années. C'était une occasion super quoi, d'aller au bout d'une nouvelle démarche. Au-delà de produire des céréales panifiables, c'est d'aller jusqu'à les moudre et les transformer sur place. Donc en 2018, le temps que la réflexion se mette en place, est arrivé le fournil à la ferme avec donc production de pain de différentes recettes qui sont des pains au levain naturel avec des céréales de la ferme donc et cuits dans un four à bois. Alors, on a plusieurs sortes de céréales. Il y a des années où on arrive à avoir un catalogue plus grand que d'autres parce qu'il y a des céréales plus fragiles et c'est pas une réussite tous les ans. C'est aussi ça, les réalités actuelles, hein, avec l'évolution climatique, mais aussi avec la réalité où le climat et le temps, ben voilà, c'est toujours un pari hein, pour l'agriculteur dans ses productions. Comment va s'en sortir le seigle cette année? Comment va s'en sortir l'engrain, le petit épeautre? Parce que c'est une céréale qui n'est pas vraiment cultivée dans des pays plus humides. Donc l'année dernière, hélas, on n'a pas réussi à avoir notre engrain. Mais cette année, ben, ça y est, la récolte est faite. Il part en cours d'analyse et on verra si on peut l'utiliser. Mais donc ici est cultivé un blé paysan, également de l'épeautre, du seigle, du petit épeautre, de l'amidonier, qui est une céréale qui est assez peu connue en France, mais qui a aussi des grandes propriétés gustatives, et notamment pour assimiler au niveau intestin. Alors l'amidonier, c'est une semence assez étonnante parce qu'elle a une petite couleur rouge, et donc ça fait une farine assez rougeâtre, et on fait des petits pains moulés à l'amidonier. Aujourd'hui, les recettes sont beaucoup plus abouties, mais c'est vrai qu'il vit à créer et a mis du cœur à l'ouvrage de créer des recettes à la fois qui faisaient sens par rapport à l'environnement de la ferme, mais aussi sens par rapport à elle. Tiens, j'ai une petite anecdote. On a un pain danois qui est fait en fermentation un petit peu plus longue, qui est préparé dès la veille de la fournée et qui est fait à la farine de seigle. Et ce petit pain danois, c'est un clin d'œil à son mari Christopher, qui est d'origine donc du Danemark, qui a ce petit pain danois qui est un peu la signature d'Ylvie, le petit clin d'œil dans son fournil. On ajoute des céréales, des graines de tournesol et de courge. C'est un petit pain qui a une petite sensation d'acidité. On a un pain de farine de blé nature, pour ceux qui aiment le pain assez classique. On a un pain aux graines où on ajoute des graines de lin, des graines de courge, des graines de tournesol. On a un pain à l'épeautre avec notre farine d'épeautre nature. Et aussi, on a un pain raisin-noisette avec la farine d'épeautre également. Donc ça, c'est le petit gourmand, une petite boule de raisin-noisette. Alors, à l'année, il produit chaque semaine à peu près 200 kilos de pain. Donc à l'année, il faudrait calculer 200 fois 52 semaines. Le pain, lui, il est vendu essentiellement sur notre boutique à la ferme, mais également dans des boutiques à 20 kilomètres des environs. Pour avoir accès à notre pain, ce qui est peut-être un peu différent aussi d'une boulangerie classique, c'est que le processus de fabrication est beaucoup plus long. Parce que vous voyez, demain il y a une fournée et ce matin, donc c'est-à-dire la veille, j'ai déjà préparé à réveiller mon levain là. Du coup, bah c'est tout à l'heure, là je vais aller voir les commandes. Ça demande en fait aux gens d'anticiper à l'avance quel pain ils ont besoin, parce que nous derrière on va décliner des recettes en fonction du pain pour satisfaire tout le monde. C'est aussi pour éviter un maximum le gaspillage, on aime bien fonctionner avec des commandes. Les fournées à la ferme, c'est rythmé le mardi et le vendredi, bah en fait les jours où la boutique est ouverte, parce que notre pain est fait le matin et la boutique est ouverte l'après-midi pour qu'il soit frais.
Demain, nous verrons un peu plus en détail le processus de fabrication du pain au cœur du moulin installé sur place, jusqu'à la cuisson au feu de bois et la vente ensuite. Vous avez le programme en tout cas de demain, soyez au rendez-vous. On revient évidemment à 7h30 tous les matins et à 12h15. Je vous souhaite une très belle journée.